Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
LVMH, L'Oréal, Total, Sanofi et Airbus. Ce sont les 5 plus grosses valeurs de l'indice CAC 40, celles qui pèsent le plus lourd en bourse. Ce sont les fleurons de l'économie française, ceux qui portent haut le savoir-faire bleu-blanc-rouge à l'international. Mais le CAC 40 commence à faire son âge avec une moyenne de 105 printemps et 19 sociétés centenaires. Il est temps de faire émerger la jeunesse. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et dans cette émission, le CAC 40 va faire un peu de place au Next 40. Dans un des premiers épisodes de La Story, je vous avais parlé du cas d'Octolib, belle start-up française devenue une licorne après une montée dans son capital de plusieurs fonds d'investissement importants, essentiellement des fonds anglo-saxons. Et avec la rédaction des Échos, on s'était demandé pourquoi ces jeunes entreprises avaient tant de mal à trouver des capitaux pour grandir en France et devenir des champions européens, puis mondiaux, à l'instar des stars du CAC 40. Des groupes dont la moyenne d'âge est donc de 105 ans, quand celle du Nasdaq aux États-Unis est de 15 ans. C'est le constat qu'Emmanuel Macron faisait en mai 2016, lorsqu'il était encore ministre de l'économie. Alors l'âge en soi n'est pas un problème, Saint-Gobain, du haut de ses 354 ans, a prouvé sa capacité à innover pour perdurer, mais le manque de renouveau, notamment dans le domaine des technologies, constitue une fragilité à moyen terme pour l'économie française. Il faut aider les startups à grandir et à vieillir, c'est l'un des objectifs du Next 40. Bonjour Guillaume Brégeras.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes chef du service startup des Échos. Qu'est-ce que le Next 40 ?
Alors le Next 40, c'est un indice créé par le gouvernement pour aider les 40 startups ou les 40 entreprises tech qui ont le plus gros potentiel pour devenir des champions mondiaux.
Il y a un vrai besoin d'être plus visible pour ces entreprises ?
Il y a un vrai besoin de visibilité, surtout auprès des investisseurs. C'est un peu la marotte du gouvernement actuellement, mais l'idée, c'est que les startups ont besoin de capitaux pour grandir. Il n'y en a pas assez en France et en Europe, donc on a besoin de leur donner plus de visibilité.
Donc de dire notamment aux investisseurs, alors j'imagine qu'on s'adresse d'abord aux investisseurs français ou européens ?
À tous les investisseurs. En France, il y a un système de fonds de capital risque qui est assez bien connu. En revanche, dès que vous allez voir les investisseurs institutionnels, les banques, les assurances, elles connaissent moins, elles prennent moins ce sujet. Et donc, il faut vraiment leur donner de la visibilité et démontrer leur modèle.
Alors, Next 40, on voit bien le rapport avec le CAC 40, hein, forcément, c'est un clin d'œil. Quels sont les critères pour entrer dans ce Next 40 ?
Alors, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est le statut de licorne, c'est-à-dire est-ce que vous êtes valorisé plus d'un milliard ? Il y en a entre 5 et 7 en France. Le gouvernement a pris la définition la plus large, donc il a pris les 7 licornes françaises. Sinon, elles avaient la possibilité d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros, une croissance supérieure à 30% du chiffre d'affaires lors des 3 dernières années, ou avoir réalisé l'une des plus grosses levées de fonds de ces 18 derniers mois.
Alors, il y en a 40, mais en gros, c'était assez simple de les choisir ou il y avait vraiment un choix très, très large ?
Il y a un choix qui est large. D'ailleurs, le Next 40 va devenir un French Tech 120 en janvier prochain, c'est-à-dire qu'elles vont intégrer un indice un peu plus large, un peu comme le SBF 120, encore une fois un clin d'œil, où vous aurez les 120 startups les plus prometteuses en France.
Alors, qui est-ce qui les choisit ?
Alors, il y a eu un jury présidé par Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, qui a été l'une des premières femmes entrepreneuses à réussir dans l'entrepreneuriat. Et donc, à la fois des investisseurs et des start-upers ont mis en place ces barèmes et ces critères.
Parmi ces valeurs qui intègrent le Next 40, certaines sont déjà bien connues, comme OVH, Deezer, Doctolib. On ne va pas toutes les citer ici. On parle d'une liste et non d'un indice boursier, à la différence du CAC 40, hein, par exemple, puisque beaucoup de ces valeurs ne sont pas cotées en bourse. Guillaume, on a un peu l'impression d'un indice marketing pour les faire connaître. Mais pourquoi est-ce qu'on ne favoriserait pas plutôt l'investissement dans ces entreprises via la bourse, notamment ?
C'est un vrai sujet, c'est même le gros sujet, un des sujets principaux dans la French Tech. Il n'y a pas suffisamment de sorties pour les investisseurs. Les sorties, c'est soit la revente ou l'introduction en bourse. Effectivement, les valeurs tech ne sont pas forcément très, très bien traitées en France par les investisseurs, ni en Europe. Donc, elles sont dans la plupart du cas obligées d'aller se financer sur les marchés américains. On a l'exemple de Criteo en tête. C'était la plus grosse introduction d'une valeur française. Il y avait eu Talend aussi. Et si on remonte encore un peu plus loin, Business Object. Donc, l'État veut absolument et cherche absolument à convaincre les investisseurs qu'on peut financer sur les marchés boursiers des valeurs tech en France et en Europe. Et donc, l'idée, c'est aussi de soutenir. Euronext doit soutenir aussi un peu ce projet. Il y a eu pendant très longtemps la volonté de créer un Nasdaq à la française. Et donc, plutôt que de créer ex nihilo un marché, ils vont essayer de s'appuyer sur Euronext.
Encore faut-il que ces entreprises aient envie d'aller se coter en bourse, ce qui n'est pas toujours le cas.
Alors, ce n'est pas toujours le cas parce que malheureusement, souvent, elles se font racheter très tôt dans leur aventure. On évoquait le cas de Litchi. Litchi a été racheté assez tôt dans la vie de son entreprise. Elle a acheté une cinquantaine de millions à l'époque par Arkea. Donc, elles n'ont pas le temps de se développer jusqu'à l'introduction en bourse. Mais ça reste l'une des portes de sortie les plus intéressantes pour les investisseurs. Et donc, il faut créer ce marché.
Oui, parce que justement, le risque, c'est que ça ne soit qu'un, ce que j'appellerais un indice médiatique. Voilà, pour qu'on fasse parler d'eux, parce que c'est l'un des objectifs, et que ces entreprises à terme soient rachetées par des géants comme Amazon ou Google.
Et c'est vraiment l'idée de tout ça, c'est d'éviter ce type de rachat et d'aider à la constitution de géants européens, français. Et donc, cet indice doit y participer. Et le clin d'œil, Next 40, on imagine facilement que dans le futur CAC 40, certains de ces participants pourraient un jour en déloger quelques-uns.
Aujourd'hui, on a des boîtes, contrairement il y a un an, contrairement il y a 5 ans, aujourd'hui, on a des boîtes qui décollent. On a des startups qui deviennent des ETI. On a des startups qui créent des filiales à travers le monde. Et surtout, on a des startups qui changent la vie des gens.
On vient d'entendre sur BFM Business, Mounir Majoubi, alors secrétaire d'État chargé du numérique, à l'initiative du Next 40. C'est un autre objectif d'ailleurs de cet indice, trouver des startups capables de changer le monde et d'améliorer la vie. Guillaume, vous avez la liste des 40 sous les yeux. Est-ce que le pari est réussi ?
Alors le pari est réussi en partie. On peut toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Si on reprend l'exemple d'Insect, qui est vraiment améliore la vie des gens de manière très pragmatique. Alors c'est indirect puisqu'ils aident à mieux nourrir les poissons d'élevage ou les animaux d'élevage. On voit bien le lien. Vous avez Open Classroom, qui est une boîte qui évolue dans l'éducation et qui donne accès à l'éducation à un public beaucoup plus large et de manière beaucoup plus directe. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Vous avez même Doctolib. À la limite, on peut se dire que Doctolib facilite l'accès à la santé aussi. Alors certains vont dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais en vrai, non. Ça, on facilite l'accès à la santé, on facilite l'accès à l'éducation, on facilite l'accès à une meilleure nourriture. Donc oui, ces startups peuvent améliorer la vie des gens.
C'était une philosophie importante pour le Next 40 de faciliter la vie. On est dans le concept du Tech for Good.
Exactement, c'est le concept du Tech for Good qui était beaucoup plus présent et marqué au moment où Mounir Majoubi l'a lancé. Et lorsque Cédrico lui a succédé, ils ont légèrement modifié un peu cet axe-là en mettant d'abord en avant des principes économiques, en disant il faut d'abord construire des champions économiques.
Qui puisse durer.
Qui puisse durer, exactement.
Ouais, Guillaume, c'est la question un peu piège à ce moment de l'interview. On va devoir s'engager un peu. Pour vous, s'il devait y avoir un ou deux favoris pour entrer un jour dans le CAC 40, dans ce Next 40, ce serait qui ?
C'est une question piège, Pierrick, mais on va se prêter au jeu. Il y en a au moins la moitié qui sont des 40 sur lesquels je miserais, mais il y en a deux en particulier qui pour moi ont une trajectoire suffisamment forte pour éventuellement déloger un acteur du CAC 40, c'est Alan, dans le domaine de l'assurance. Alors certes, les chiffres sont encore un petit peu petits, mais la trajectoire est assez dingue. Il réinvente vraiment le service entièrement sur mobile pour les assurés. Et mon deuxième favori, c'est Voodoo, qui donc évolue dans le jeu sur mobile. Et on vient de sortir les chiffres, le chiffre d'affaires qui est incroyable pour ce type de boîte. C'est 325 millions d'euros en 2018. C'était 1 million deux ans avant. Donc on voit bien que la trajectoire est dingue et ils sont sur un secteur en hyper-croissance dans le monde, qui est celui des jeux vidéo. Donc, effectivement, je vois bien ces deux entreprises déloger un de nos fleurons de l'économie présent dans le CAC 40.
Merci Guillaume. À noter que l'indice Next 40 évoluera chaque année en fonction de l'évolution et des aléas de la vie des entreprises qui ont son membre.
Ouais, premier semestre 2019 absolument excellent. Juste pour vous donner une idée, il y a deux ans, le montant total d'argent investi dans les startups françaises, c'était 2,5 milliards d'euros. Au premier semestre 2019, c'est 2,8 milliards d'euros qui ont été investis dans les startups françaises. Autre exemple, si on prend ce qui aujourd'hui est assez symbolique, c'est-à-dire les grosses levées, les entreprises qui lèvent plus de 50 millions d'euros, c'était 6 en 2017, c'était 12 en 2018 et c'est 13 sur le premier semestre 2019. Donc on a une accélération extrêmement forte, ce qui est vraiment important.
Il y a quelques jours, Cédric O était l'invité d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. Il a souligné le bon début d'année 2019 pour le financement des startups françaises. Il a expliqué aussi en quoi c'était important pour l'économie française et notamment pour l'emploi. Guillaume Brégeras me glissait justement en préparant la story que dans les 12 prochains mois, la French Tech devrait créer 25 000 emplois directs, soit 10% des créations d'emplois nets en France. L'emploi. Je suis allé voir justement sur le site internet de l'un des nouveaux membres du Next 40, la société Insect. Le groupe offre en ce moment 6 postes sur Évry, Paris ou Dole. J'ai eu envie de discuter avec son président Antoine Hubert de ce qu'il pensait du Next 40, de ses ambitions, mais aussi de la dimension sociale et environnementale au cœur également du projet Next 40. Je l'ai donc appelé au téléphone. Bonjour Antoine Hubert. Alors j'ai une petite idée vu son nom, mais d'abord, que fabrique Insect ?
Alors Insect, on est des éleveurs d'insectes, de petits scarabées qui s'appellent le molitor, et on les transforme en ingrédients haut de gamme pour nourrir des animaux et des plantes. Haut de gamme parce qu'on a des bénéfices santé nutritionnels assez uniques qui permettent à des animaux de grandir en bonne santé. In fine, c'est moins de consommation de ressources, c'est moins de consommation d'antibiotiques et de pesticides, c'est bon pour les animaux et les plantes, c'est bon pour le consommateur final. Qu'on produit plus avec moins, c'est ça notre devise au quotidien.
Dans ces bacs, des scarabées et juste à côté leur progéniture, des larves souples et dodues, peut-être l'avenir de notre alimentation. C'est en tout cas le pari de ce jeune ingénieur. Il faut dire que le bétail est docile, sans odeur, et grandit en 50 jours seulement.
On vient d'entendre un extrait d'un reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté dans votre usine de Dole. C'était en février 2017. Mais alors, comment est née l'idée d'Insect ?
L'idée, c'est un projet quatre fondateurs avec mes associés il y a quelques années dans cette idée de contribuer à un impact durable. Initialement, ça vient d'un projet associatif d'éducation à l'alimentation durable et qui s'est cristallisé en un projet vraiment entrepreneurial, productif. Là, on a vu qu'on pouvait faire le plus d'impact, effectivement, et contribuer à quelque chose d'assez significatif à l'échelle mondiale.
Et quels sont vos chiffres clés aujourd'hui ?
Alors, les chiffres clés, je dirais 120 personnes aujourd'hui, à peu près 20 nationalités, 70 millions de commandes auprès de grands comptes dans l'alimentation des poissons, des chiens et des chats ou des engrais, de la tomate au blé en passant par la vigne. C'est 200 millions de financement, surtout en capital. Et c'est une cible de 5 milliards de chiffre d'affaires dans une grosse décennie par la construction d'une dizaine d'installations dans le monde. Après celle, on commence à construire à Amiens dans quelques mois.
Vous avez intégré le Next 40. Quel a été votre premier sentiment quand on vous a appris la nouvelle ?
Une grande fierté. Quand on dit Next 40, c'est l'avenir, c'est le futur de CAC 40. Être associé à ce classement-là, ça souligne le travail de toutes les équipes. Donc c'est vraiment super pour tout le monde. Être avec des très belles entreprises comme Deezer, OVH, Vente Privée. On est probablement un des rares industriels, des rares de l'agriculture aussi. Donc ça souligne aussi l'importance de ce secteur en France, cette agriculture et cette industrie pour créer toujours plus d'emplois, pas que dans les métropoles, mais aussi dans les territoires ruraux. C'est là où on est, à nous, intégrés dans les territoires, et c'est ça qui est important, qu'on fasse partie aussi de ce classement, qui ne soit pas que réservé aux sociétés de services ou de logiciels.
Où est-ce qu'il y a une dimension sociale, effectivement, dans votre entreprise? J'ai vu que vous cherchiez à peu près, il y avait 6 postes ouverts, c'est ce que j'ai vu sur Evry, Paris ou Dole. Être justement, pas seulement sur Paris, s'installer dans le Jura avec une unité de production, ça aussi, c'est un geste fort?
Bon, on est des agriculteurs d'un nouveau genre, hein, technologique, avec beaucoup de data, d'intelligence artificielle, certes, mais on est voilà, intégrés dans les territoires. Donc on recrute à Dole, dans le Jura, sur notre petit site de production, qui a permis de valider toutes les technologies. Et demain, on va recruter voilà, un grand nombre de personnes sur Amiens, sur notre futur vaisseau amiral là, qui devrait commencer la construction dans quelques mois. Voilà, depuis des opérateurs, des gens dans des lignes de production agroalimentaire. Et puis voilà, à Évry, on a nos centres de recherche, les chercheurs, les ingénieurs. À Paris, des ingénieurs aussi pour tout ce qui est développement de futures installations, la direction. Donc on a des profils très diversifiés et sur plusieurs sites.
L'idée du Next 40, hein, c'est notamment de mieux éclairer ces entreprises, de mieux les faire connaître auprès des investisseurs notamment. Mais de quoi est-ce que vous avez le plus besoin de médiatisation ou d'argent ?
Je pense qu'il y a toujours plusieurs freins à la croissance des jeunes entreprises qui restent toujours très précaires par rapport à un grand groupe. Chaque mois compte jusqu'à l'atteinte du seuil de rentabilité ou même qu'on continue à réinvestir dans le temps. La rentabilité prend du temps. Donc c'est toujours à rechercher des talents, donc attirer des talents dans des domaines parfois difficiles. Nous, tout ce qui est par exemple maintenance industrielle, automaticien, c'est pas simple à trouver sur le marché. Donc il faut attirer ces profils-là, rares. C'est le capital, bien entendu. On a fait une belle levée de fonds de 125 millions il y a quelques mois, mais on est encore très loin des levées en Angleterre, aux États-Unis, qui permettent de constituer vraiment des futurs géants de demain. Donc on doit avoir cette ambition-là et continuer à attirer des capitaux. Mais c'est aussi tous les sujets réglementaires, administratifs. On le voit, notre domaine, qui est aussi l'industrie, la construction de bâtiments, bah, ça prend parfois beaucoup, beaucoup de temps, des temps incompressibles, mais qui ralentissent aussi la vitesse et la croissance de jeunes entreprises comme nous. Et donc, on fait face effectivement à ce genre de difficultés inhérentes à toute industrie, mais particulièrement pour nous, jeunes entreprises, on est plus fragile face à ces aléas temporels.
Grâce à cette levée de fonds de 125 millions de dollars, elle va construire un site d'élevage d'insectes dans la Somme, site qui va lui permettre de devenir le premier producteur d'insectes au monde. Avec cette usine, elle compte fournir 20 000 tonnes de protéines d'insectes par an.
Mais ce qui est intéressant avec Insect, c'est que vous êtes dans une logique déjà industriel, vous voulez produire des insectes à une échelle industrielle, ça demande énormément de moyens.
Ça demande vraiment beaucoup de moyens, c'est sûr. Chaque installation coûte, c'est des grosses infrastructures, mais c'est là pour durer. Ce sont des assets qui ont beaucoup de valeur. On est là, quand on s'installe à un endroit, c'est pour des décennies. C'est des installations qui sont fortement automatisées. Il y a de l'emploi, mais aussi ça crée des emplois locaux non délocalisables. Et permet de relocaliser aussi la production, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le domaine des protéines, l'Europe dépend à plus de 70% de ses d'importations qui viennent surtout d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Donc nous, on contribue aussi à répondre à ces grands enjeux géopolitiques de relocalisation et d'emplois locaux.
Vous avez levé effectivement 125 millions de dollars il y a quelques mois, reçu une subvention de 20 millions aussi de la Commission européenne, il faut le dire, c'est important, pour financer notamment le projet Farming dans la Somme. Vous pouvez nous en dire plus ?
Mais en fait, c'est 20 millions complémentaires dans le cadre finalement du projet, du financement du projet avec la levée de fonds capital. C'est pour, au-delà de notre installation, aider à la constitution d'une filière. Parce que seul, on peut rien faire. On s'intègre toujours dans une filière. Et quand on est dans une nouvelle technologie, il faut qu'on crée toute cette dynamique auprès de nos fournisseurs, nos clients, des fournisseurs de services. Je sais pas, l'analyse de la qualité des produits, l'analyse environnementale, la communication autour de nos produits. Donc, on a réussi à entraîner 20 partenaires avec nous, une dizaine de pays en Europe, pour resituer depuis l'origine de la chaîne de valeur, ce qu'on donne à manger à nos insectes, jusqu'au client fini, jusqu'au consommateur. Voilà. Et nous, on s'intègre au milieu et crée toute cette dynamique-là pour faire en sorte que notre technologie puisse vraiment rentrer sur le marché grâce à la constitution de toute cette chaîne de valeur. Donc, on était très heureux de ce financement conséquent, mais qui a pour but d'apporter toute cette dynamique.
Est-ce que vous arrivez aujourd'hui facilement à lever des fonds ?
Alors, je pense qu'aucun entrepreneur dira qu'une levée de fonds n'est facile. C'est toujours un travail important. C'est un travail commercial, marketing, de promotion de son entreprise, de ses valeurs, de sa valeur ajoutée. Quand on a une bonne idée, on a un bon produit, on a une belle équipe, une belle ambition, je pense qu'on arrive toujours à trouver les fonds. Et il faut ne pas avoir peur à repousser certaines limites, aller au-delà, justement, pas clairement dans le cas de la France. On a des très beaux investisseurs comme BPI, ID Invest, du groupe Euraseo, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne. Mais voilà, on a aussi des investisseurs de Belgique, d'Angleterre, de Suisse et même d'Asie du Sud-Est, Singapour et Hong Kong, qui nous apportent justement des relais de connaissances géographiques, de secteurs, de géographie, de métiers différents qui sont très utiles et qui alimentent et enrichissent. C'est, comme toujours, la diversité fait la richesse, la diversité des investisseurs, la diversité des équipes, des profils, des âges, des origines.
Vous avez des ambitions importantes en termes de chiffre d'affaires, notamment à l'avenir. Est-ce que cette ambition peut vous faire passer par la bourse, par exemple ?
Ah ben nous, on étudiera tous les moyens qui nous permettent de soutenir notre croissance et notre ambition qui est très grande. Je rappelle effectivement 5 milliards, ça paraît gigantesque, mais ce n'est que 0,5% du marché de l'alimentation animale et végétale qui atteint les 1000 milliards dans quelques années. Mais c'est important, on aura besoin de relais de financement. Voilà, ça peut être dans tout ce qui est private equity, soutien bancaire, mais la bourse peut faire partie effectivement du chemin. Mais ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin en soi.
Et beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans le milieu des startups, hésitent à rentrer en bourse ou préfèrent souvent se vendre à des plus gros que de continuer leur chemin tout seul. Pourquoi est-ce que vous comprenez ce positionnement ?
Ah oui, c'est toujours très compréhensible. Aussi, mener une entreprise, c'est du quotidien, c'est un investissement permanent. On est presque comme des athlètes de haut niveau qui s'investissent à corps perdu, physiquement, dans l'entreprise. Donc, parfois, on n'a pas envie de faire ça pendant plus de 10 ans. C'est une question personnelle. C'est aussi un choix parfois de revendre à un moment où il y a une opportunité, parce qu'il faut qu'elle existe. Elle n'existe pas toujours. Et donc, avoir un exit, c'est un signe de réussite quand même énorme. Et après, si on veut construire demain, justement, le Next 40, le CAC 40 de demain, il faudra aussi avoir l'ambition de continuer et de faire face à des obstacles et de poursuivre et d'essayer de poursuivre, je dirais pas seul, que c'est avec des investisseurs, mais pas forcément, effectivement, rechercher une sortie trop rapide, mais tenter, effectivement, dans le long terme, de créer encore plus de valeur et de créer ces géants français et européens de demain.
L'objectif de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, est que cet indice reflète la performance des startups et moins leur impact sur la société. C'est dommage ?
Je pense qu'il y a les deux. Hein. C'est ce que le ministre a souhaité. C'était à la fois la performance, que avant tout, pour avoir de l'impact environnemental et social, faut viser une rentabilité, une performance de chiffre d'affaires. Sinon, on n'existe pas. Donc, c'est la condition sine qua non. Et après, c'est comment on concilie cette performance financière avec de l'impact, cette notion de tech for good. Et il y a effectivement des prix associés, intégrés dans ce panel Next 40 qui souligne justement les engagements de certaines entreprises pour l'environnement, pour l'égalité homme-femme, pour l'économie circulaire. Et voilà, donc les sujets dans lesquels Insect s'investit au quotidien, comme le souligne, en tout cas, nous on a déposé une demande de label B Corp qui soulignerait notre engagement multisectoriel, sociétal, environnemental, économique de l'entreprise et de ses équipes au quotidien.
On vient de l'entendre avec Antoine Hubert, l'argent reste le nerf de la guerre pour les startups et le gouvernement ne s'est pas contenté d'annoncer le Next 40.
Ce cap, il vient d'être passé par l'engagement qu'ont pris ces investisseurs institutionnels, que je veux vraiment remercier pour leur mobilisation et les risques pris, d'engager dans les 3 prochaines années 5 milliards d'euros dans les fonds français spécialisés sur la technologie.
Alors Emmanuel Macron a reçu mardi soir à l'Élysée le gratin de la tech et de la finance française. Objectif, inciter les investisseurs français à miser sur les startups tricolores et stimuler l'emploi. Alors Guillaume Brégeras, on attendait surtout le président au niveau du porte-monnaie, c'est-à-dire des investissements. Le rapport Tibi du nom de l'ancien patron d'UBS France chiffrait les besoins à 20 milliards. Au final, 5 milliards de mobilisés, c'est un premier pas ?
Effectivement, c'est un premier pas, Pierrick. 5 milliards, c'est un petit peu en dessous de ce qu'avait énoncé ce fameux rapport. En revanche, c'est une première. C'est vrai que les institutionnels ne s'étaient jamais mobilisés autant pour supporter les startups. Et surtout, cet argent va être mobilisé pour financer les startups en ce qu'on appelle en late stage, donc plutôt en milieu de parcours, à un moment donné où elles ont vraiment besoin d'accélérer.
celles qui ont besoin de 50 à 100 millions.
Exactement, hein. Voire 50, 100, 200. Aujourd'hui, c'est compliqué de se financer en France. Et l'idée, c'est de pouvoir bénéficier de capitaux nationaux pour accompagner ces startups.
Il y a vraiment une mobilisation de tous les acteurs de la finance ?
Tous, non. Pour l'instant, il y a les assureurs, quelques banques aussi. On n'a pas encore tous les noms, mais ça devrait pas tarder. Et surtout, on attend de voir comment elles vont articuler ces fonds. Certaines avaient déjà des poches de réserve. Donc, il y a un peu un effet d'annonce, mais c'est quand même de l'argent qui va être injecté directement dans ces entreprises.
Merci Antoine Hubert, président d'Insect, et merci Guillaume Brégeras pour cet éclairage sur les peut-être futures stars de la Bourse de Paris. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Adèle Hittel, chargée de production et d'édition Michel Varnet. La story, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à nous distribuer 5 étoiles si ce programme vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.